VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, deuxième jour du Forum pour la réconciliation nationale organisé par la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion Touareg dans le nord-est du pays. La réunion a lieu sans participation du gouvernement malien et de ses alliés. Bamako estime ne pas avoir obtenu les garanties attendues. Dans une déclaration aujourd'hui, la CMA demande que la libre circulation des personnes et des biens puisse être garantie dans le nord-est malien. Un des dirigeants du groupe, Algabas Ag Intala, a également salué la contribution financière de Bamako à la tenue du forum en cours à Kidal. Toujours concernant la crise au Mali, l'ONU juge alarmante la situation sécuritaire dans le nord du pays et demande au gouvernement malien et aux pays contributeurs d'intensifier leurs efforts pour y faire face. Le point avec John Lindon.
Le secrétaire général Ban Ki-moon souligne dans son dernier rapport sur ce dossier que les régions nord et centre du Mali restent sous la menace de réseaux criminels, d'extrémistes violents et de groupes terroristes. Le rapport confidentiel transmis au Conseil de sécurité fait état des difficultés opérationnelles persistantes pour la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Ban Ki-moon demande aux pays fournisseurs des casques bleus et aux pays donateurs de maintenir leurs efforts afin que tous les contingents de la MINUSMA aient des équipements et un entraînement conforme aux standards de l'ONU. Le secrétaire général onusien appelle en particulier au déploiement rapide des véhicules blindés de transport de troupes qui manquent. De son côté, le gouvernement malien doit renforcer la présence de ses forces armées dans le nord et s'efforcer de rétablir plus largement les services publics de base dans cette région afin de garantir à la population locale les bénéfices tant attendus de la paix.
Burkina Faso, une délégation gouvernementale tchadienne séjourne dans le pays pour examiner la situation de 315 étudiants tchadiens exclus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou pour non-paiement des frais universitaires. Également privés de bourse, certains de ces étudiants ont investi les locaux de l'ambassade tchadienne sur place et d'autres campent devant les grilles de la mission diplomatique depuis plus de 2 semaines. Pour faire le point, Timothée Donangou a joint l'un des porte-parole de ses étudiants, Charles Dagou.
La délégation est composée notamment des personnes venant du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a aussi un représentant du ministère des Finances. Il y a le premier conseiller de l'ambassade qui faisait partie de la délégation aussi. Et ont assisté aussi à la réunion le premier secrétaire de l'ambassade, l'attaché militaire aussi de l'ambassade.
Quel est le résultat de cette première réunion que vous avez eue avec la délégation?
Ils nous ont dit qu'ils sont venus pour prendre des engagements avec deux yeux et essayer de payer les frais de scolarité que deux yeux demandent. Mais avant de payer les frais de scolarité, ils vont d'abord toiletter les factures pour voir quels sont les montants exacts à payer.
Qu'en est-il de votre situation, de vos bourses de subsistance?
Sur notre bourse de subsistance, ce qui nous a surpris, on nous demande de présenter nos arrêtés de bourse, on nous demande de présenter ce qui atteste que nous sommes étudiants boursiers tchadiens à deux yeux. Mais sur ce point, nous, on nous dit qu'on est en phase de transition parce que le ministère en charge de notre situation était le ministère de l'Agriculture et il est en train de passer le bâton de commandement au ministère de l'Enseignement supérieur. Et il a fait déjà un rapport détaillé de la situation et il a envoyé ce rapport-là au niveau de l'ambassade ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur. Et non seulement ça, il faut dire aussi qu'il y a déjà 2 délégations qui sont venues pour recenser les chiffres des étudiants tchadiens à deux yeux et on a présenté même nos certificats de scolarité, on a présenté nos bulletins, ce qui atteste déjà, parce qu'avant de s'inscrire, il faudrait avoir cet arrêté de bourse-là. Et on était surpris que les autorités viennent encore nous demander cela.
Cela fait 2 semaines que certains de vos camarades occupent les locaux de l'ambassade, d'autres campent devant l'ambassade. Oui. Comment vous en sortez-vous?
On reçoit de l'aide de partout et c'est à travers ces aides-là, on a une cuisine à l'extérieur de l'ambassade et on prépare et on se partage avec nos amis qui sont à l'intérieur de l'ambassade.
Charles Dagou, porte-parole des étudiants tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou, au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
République centrafricaine, l'ONU fait état de 2 nouvelles accusations d'abus sexuels impliquant ces casques bleus en Centrafrique. Les précisions de Félix Yepassi Zembo.
Des membres du contingent militaire burundais de la MINUSCA, basé à Sibut, sont accusés d'avoir violé une mineure âgée de 14 ans. Et un soldat marocain, non encore identifié, est de son côté accusé d'avoir exploité sexuellement une femme adulte en février dernier à Bangassou. Rabat et Bujumbura ont été informés et le Maroc a indiqué qu'il allait mener une enquête, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Face à la multiplication des scandales de ce genre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est engagé à rapatrier des contingents entiers en cas d'accusation persistante et le Conseil de sécurité a adopté le 11 mars une résolution en ce sens.
Au Congo-Brazzaville, l'appel de l'opposition à une journée ville morte pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso était diversement suivi aujourd'hui. Brazzaville offrait le visage d'une ville à deux vitesses. Le mot d'ordre lancé par cinq rivaux malheureux de M. Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars étant largement suivi dans les quartiers du sud, acquis à l'opposition, et ignoré dans les quartiers nord, reflétant la division électorale de la capitale. Les autorités ont annoncé jeudi dernier que Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du Congo-Brazzaville, avait été réélu au premier tour avec plus de 60% des voix lors du scrutin présidentiel du 20 mars. Une coalition de cinq candidats d'opposition a qualifié ce score de forfaiture et a appelé la population à contester la réélection du président par des voies légales et pacifiques, en commençant par une journée ville morte dans tout le pays ce mardi. En RDC voisine, l'opposition rejette les élections de gouverneurs des nouvelles provinces remportées le week-end dernier à plus de 70% par la majorité au pouvoir. Ces scrutins constituent, selon l'opposition, une des manœuvres du régime en place pour maintenir le président Joseph Kabila à la tête de l'État au-delà des limites constitutionnelles. Au micro d'Eddy Isango, les explications du député Martin Fayoulou, un des leaders de la plateforme dynamique de l'opposition.
Les députés provinciaux qui ont élu des soi-disant gouverneurs n'avaient pas qualité parce que ces députés ont été élus dans les cadres des 11 provinces et non 26 provinces. Les députés sont fait mandat depuis et nous ne pensons pas qu'ils soient légitimes pour élire les gouverneurs. On n'a pas prévu dans ce pays des gouverneurs à deux vitesses. Il y a des gouverneurs qui ont été élus en 2006 dans les cadres des 11 provinces et maintenant il y a des gouverneurs qui sont élus par les députés et élus en 2006. Nous nous disons que ça ne nous concerne pas.
Certains partis de l'opposition ont participer à ces élections quand même.
C'est une affaire de M. Kabila et de ses affidés, de ses amis. Ça ne concerne pas l'opposition.
Martin Fayoulou, un des leaders de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement en RDC.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le président américain Barack Obama va rencontrer jeudi son homologue sud-coréenne Park Geun-hye et le premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'une réunion tripartite organisée en marge du sommet sur la sécurité nucléaire ici à Washington. C'est ce qu'a annoncé hier la Maison-Blanche. Cette réunion constituera notamment une opportunité pour les trois dirigeants d'évoquer les réponses communes à la menace posée par la Corée du Nord, a précisé un communiqué du porte-parole de l'exécutif américain. Plusieurs chefs d'État sont attendus dans la capitale américaine jeudi et vendredi pour la quatrième édition du sommet sur la sécurité nucléaire. Et puis les primaires présidentielles américaines, le président Barack Obama exhorte les médias américains à dénoncer les candidats à la présidentielle de 2016 qui mentent haut et fort et mènent des campagnes qui échappent à toute raison. Le chef de l'exécutif américain visait, sans le nommer, le milliardaire Donald Trump. Ce dernier est actuellement en tête de la course à l'investiture républicaine comme candidat à la présidence avec une campagne marquée par des attaques personnelles, des propos jugés islamophobes et des débats qui tourne souvent au pugilat. Un pirate de l'air a détourné un avion de la compagnie égyptienne vers l'aéroport de Larnaca en Chypre. Le pirate de l'air réclame de voir son ex-épouse chypriote après avoir libéré la plus grande partie des passagers. Il ne resterait que trois personnes à bord de l'appareil en plus du pirate. Ce détournement n'est pas lié au terrorisme, a affirmé le président chypriote Nikos Anastasiades. L'Airbus A320 d'Égypte transportait au total 55 passagers et assurait la liaison domestique entre la ville côtière d'Alexandrie et le Caire avant le détournement. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.